Pour sa saison 2018-2019, l'Orchestre Symphonique de Laval a décidé d'innover et de mettre à la disposition de ses auditeurs, de son public, des capsules de balado-diffusion où il sera possible de rencontrer des musiciens, d'entendre parler des œuvres, d'entendre parler du métier, d'entendre parler de musique, enfin de pénétrer au cœur des œuvres du répertoire. Alors, nous sommes à l'Université McGill, dans un studio de percussion, le studio de Fabrice Marandola et Michel Bété de l'Orchestre de Laval, qui sera le bassoniste, un des quatre bassonistes pour la Symphonie Fantastique et qui sera aussi bassoniste pour le Garbage Concerto de Javier Lep. J'ai ces deux messieurs avec moi pour vous parler du programme et vous parler de musique. Fabrice Marandola, merci de nous accueillir au studio de percussion de l'Université McGill, qui est un peu votre domaine, votre petit royaume.
Tout à fait.
Qu'est-ce que c'est votre cheminement d'instrumentiste ?
Alors, mon cheminement, j'ai grandi à Montluçon, qui est une petite ville du centre de la France.
Montluçon.
Et qui, en fait, avait pour particularité d'avoir un professeur de percussion extraordinaire. Et puis, on est comme ça toute une tralée à avoir grandi à Montluçon grâce à ce professeur qui, en fait, nous a transmis la passion et puis une rigueur aussi.
Mais vous maintenez le suspense, Fabrice, son nom ?
Son nom, Daniel Ardaillon.
Daniel Ardaillon. Oui, et donc, c'est une pépinière, c'est vraiment un homme qui a su vous inspirer.
Tout à fait. Et tout petit, j'ai commencé à faire de la percussion. J'étais fasciné par la percussion. Puis voilà, de fil en aiguille, j'ai fini donc mes études au conservatoire de Montluçon. En même temps, je passais ce qu'on appelle le bac en France, donc la fin du lycée. Et puis je suis rentré finalement à la classe, au conservatoire avec Jacques Delescluze, où j'ai passé en fait 4 ans. Et lui, ce qui l'intéressait, c'est la musique. Et donc, ses cours ne portaient finalement quasiment que sur le phrasé.
Cette idée de faire de la musique avec la percussion, je sais que c'est une question à laquelle j'ai la réponse, mais j'aimerais entendre votre réponse. Comment avec des baguettes, comment avec finalement des frottements, avec autrement dit, ce qui n'est pas linéaire, ce qui n'est pas soutenu, comment arrive-t-on à justement chanter ?
Tout le travail qu'on fait, c'est de développer le toucher. Et donc, c'est l'attaque. C'est comment est-ce qu'on peut moduler une attaque avec un temps de contact qui est aussi infime, finalement. Donc, par exemple, au timbal, c'est en fait une question de vitesse, une question de profondeur d'attaque, puis évidemment, le type de baguette qu'on utilise. Mais c'est en fait, parce que moi, je fais aussi beaucoup de recherches, et donc on travaille sur la capture de mouvement en 3 dimensions ici à McGill, avec des accéléromètres, etc. Et puis, on étudie vraiment la frappe de la timbale, par exemple. Et on voit très clairement le geste est différent selon le type d'attaque qu'on veut avoir. Et on peut même travailler maintenant avec des machines qui font de la reconnaissance automatique et on peut reconnaître le type de frappe qui a été fait avec le type de geste qui a été produit. C'est vraiment... on est vraiment...
C'est d'une science.
Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on s'aperçoit qu'on est au même degré de précision que des athlètes de très haut niveau. C'est-à-dire que la précision du geste dans l'espace et dans le temps est extrême. Et c'est ça qui fait la différence entre un expert et puis un amateur. Et donc l'expert, lui, se sert de cette qualité qui produit dans l'attaque et la résonance pour que l'attaque qui suit soit dans la continuité, soit elle fasse une différence. Opposé. Et donc c'est comme ça qu'on crée une phrase musicale. En fait, quand on écoute vraiment, on entend vraiment des micro-variations qui, elles, font qu'on entend une différence entre quelqu'un qui joue de façon mécanique, des coups qui sont tous égaux, et quelqu'un qui va très légèrement moduler ses coups pour donner une direction à la musique.
Fabrice Marandelin, on arrive au Garbage Concerto. l'origine du concerto, le compositeur nous raconte qu'il y avait un bac de recyclage et puis il s'est mis à taper sur des bouteilles, sur enfin, toutes sortes de choses qui partaient vers le recyclage. Et puis, ça lui a inspiré ce concerto qui vient. Et là, Sixtrom, et vous, donc, dont vous faites partie, vous vous penchez là-dessus.
On est dans trouver un nouveau son. C'est pas nouveau, John Cage a fait beaucoup pour nous pousser, nous sortir finalement de notre train-train de musiciens en disant « Mais écoute, le son que tu ne considères pas comme étant un beau son est un son intéressant. » Et là, ça change complètement la perspective. Parce qu'en fait, tout ce qu'on catégorisait dans la catégorie rebut, rejet, recyclage, dans le son, devient intéressante. Et donc, on change notre perspective sur ce son-là, et donc tout son devient intéressant. Ce qui est intéressant de Garbage Concerto, c'est que c'est quand même conçu, c'est pas n'importe quel son qui va avec n'importe quel son, ce sont des catégories de sons, on fait des familles.
Des catégories comme quoi ?
Par exemple, la percussion 1, c'est 5 boîtes de conserve. Donc on choisit, et puis avec des sons différents, des hauteurs différentes. Et nous, tout notre travail, c'est d'aller trouver quelque chose qui est intéressant quelque part. Et donc, il y a une cohérence interne pour que quand cette personne-là, la percussion 1, joue sa ligne mélodique, etc., on entende que c'est une ligne mélodique, que les sons sont suffisamment proches les uns des autres pour qu'on entende une famille par rapport à la percussion 2 qui lui frappe sur des bouteilles en verre, par rapport à la percussion 3 qui est moi qui joue sur des grosses bouteilles de plastique, etc., etc. Donc chaque instrumentiste a un type d'objet et nous on va chercher, et je vous dis que ça fait un moment qu'on est en train de vider toutes les bouteilles de plastique qui existent pour essayer de trouver les bons formats et un type de son qu'on va pouvoir exploiter aussi de façon intéressante et musicale.
Donc le compositeur s'attend à ce que chaque interprète de son concerto invente sa propre lutherie. Il s'attend, et donc c'est chaque individu qui va recréer à chaque fois. Donc le concerto n'est jamais pareil, il est toujours vivant, il est toujours différent. Mais la grande question idiote, mais je vais oser la poser parce que je suis sûr que nos auditeurs se la posent la question. Est-ce que ce concerto, une fois passé le choc de découvrir les sonorités, de voir le spectacle de 5 personnes qui s'acharnent sur les instruments différents et tout, est-ce que, et c'est là où c'est la question idiote, est-ce qu'on arrive à un type d'émotion ? Autrement dit, est-ce qu'on retrouve tout à coup cette espèce de bonheur qu'on peut avoir à écouter, je ne sais pas, la scène au chant de la Symphonie Fantastique ?
Oh, tout à fait.
Ah ouais.
Tout à fait, la musique est bonne. À partir du moment où la musique est bonne, quels que soient les sons qui la construisent ou qui lui donnent vie finalement, c'est ça qui compte, c'est ce qui est derrière. Après, nous, on est tous des musiciens et donc on lui donne un sens, une cohérence qui est la nôtre, mais comme n'importe quel interprète. Mais la musique est bien écrite, elle est très bien conçue pour le rapport orchestre-soliste, donc ça fonctionne, on a 3 mouvements qui sont très contrastés. Le deuxième, qui est d'ailleurs un cœur de bouteille, on a chacun entre 3, 4, 5 bouteilles, les solistes, accordés. Et donc, on joue un cœur de bouteille.
Un cœur de bouteille.
Oui, monsieur. Et c'est beaucoup plus complexe que ça en a l'air, en fait. Pour avoir le bon rapport entre le volume et la note qu'on cherche, alors on peut les accorder avec de l'eau. Mais en fait, toutes les embouchures sont différentes. Parce que chaque bouteille, on ne s'en rend pas compte quand on boit notre bière.
Mais vous soufflez dedans,
On souffle dedans, oui.
Comme vous, ce qu'on
tout
arrive.
À fait, oui.
Et vous arrivez à faire un cœur en soufflant dans les bouteilles avec des niveaux d'eau différents.
Oui.
Avec des épaisseurs de bouteilles différentes.
Tout à fait.
Mais vous êtes de vrais artistes.
Mais c'est-à-dire que ça nous sort pas mal de notre zone de confort. D'habitude, on frappe, on souffle pas. Et donc, on travaille beaucoup. En fait, on en répète beaucoup cette partie-là notamment, qui est un peu plus complexe pour nous, percussionnistes en fait. Mais très intéressante. Et d'ailleurs, qui fonctionne très très bien avec l'orchestre.
Michel Bété, vous arrivez, non seulement vous êtes partout, vous êtes un peu comme Dieu, hein, vous êtes au NEM, vous êtes à l'Orchestre de Laval, vous êtes à l'Orchestre Métropolitain,
ouais.
Vous êtes un professeur, mais vous êtes allé à un congrès où vous rencontrez, qu'est-ce qui se passe dans un congrès de bassonistes? Est-ce que vous vous parlez?
Ben, dans ce congrès-là, qui est organisé par l'International Double Reed Society.
Okay.
Donc, c'est pour les hautbois, le cor anglais, le basson, le contrebasson. Il y a des concerts toute la journée. souvent trois à la fois.
Donc, il faut choisir.
Oui, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. C'est sur 5 jours. Parfois, c'est des masterclass ou des présentations sur les anges, peu importe. Et le soir, c'est ça, il y a un grand concert avec des noms très connus. Voilà. Et ça m'est arrivé aussi de jouer le soir.
Donc, vous êtes parmi les noms très connus, c'est ça?
Disons que, comme ça fait une vingtaine d'années que je fais ce congrès-là, on commence à me connaître assez bien, oui.
C'est un peu le salon des métiers d'art du basson, si on veut.
Si on veut, oui.
Si on regarde l'instrument lui-même, il part de où? Parce que le basson, bon, on connaît un peu le violon, on sait, bon, le Stradivarius et tout, le piano, l'évolution, etc. Mais le basson, il sort d'où? Est-ce qu'il vient de l'Antiquité, lui aussi?
L'Antiquité, ben, c'est un peu un prolongement du hautbois, si on veut. Parce que c'est un instrument aussi à hanche double, mais plus long.
Donc, OK. Déjà, hanche double, là, vous venez d'en perdre plusieurs.
Bon, d'accord. Une hanche, c'est un morceau de roseau qui est taillé de façon à, quand on souffle dedans, ça vibre.
Ah, mais un roseau, donc, oui. Ça, l'air passe entre les deux et il y a une vibration qui se fait.
Exactement, oui.
Et c'est avec ça que vous travaillez. Tout le tube et tout ce qu'on voit, ça, c'est simplement pour amplifier?
Voilà, c'est l'amplification, c'est pour avoir évidemment des notes différentes.
Et là, vos clés et tout ça, ouais. Ça, c'est évidemment. Mais oui. le passage entre, si on veut, le...
Sans hanche, on n'entend que du souffle. Alors,
c'est ça. Donc,
prend une hanche, oui.
C'est un peu comme les boîtes de chiclets quand on peut avoir cette vibration qui se fait.
Effectivement, je connais le parallèle.
L'analogie, avec les boîtes de chiclets, c'est facile, ça. Mais au moins on la comprend comme ça.
Oh, oui.
Et l'évolution de l'instrument comme tel pour arriver à cette modernité, est-ce qu'il y a eu des facteurs qui ont été déterminants? Est-ce qu'il y a eu quelque chose qui a fait une école allemande, une école française?
Ce qu'a fait une école allemande ou française, c'est un peu le développement du basson. On a développé le basson en rallongeant un peu ce que les Français appellent le bonnet, ici on appelle ça la cloche, donc la partie tout au bout du basson.
Ça sert de résonateur, le bonnet?
Oui, en même temps, oui. Et puis après ça, on a développé surtout l'aigu de l'instrument, avec des clés qui permettent d'avoir des harmoniques plus aiguës. Voilà.
Mais le basson comme tel, on pourrait le dire, je ne sais pas si on va le dire, mais que la symphonie fantastique, quelque part, met un peu le basson au monde, au sens où avant, bien sûr, on pense à Mathieu Lussier qui fait du basson baroque, il y a toute la musique contemporaine, mais avant ça, c'était une ponctuation, une couleur, il y avait certains solos, quand il y avait une nostalgie profonde, on mettait un peu de basson, ça marche toujours, mais la naissance, si on veut, du basson moderne, arrive avec la symphonie fantastique.
Oui, si on veut, ouais, parce qu'on parle de musique moderne aussi.
Si vous trouvez
aussi.
Que c'est tiré par les cheveux, vous me le dites, hein, c'est pour ça que je vous
dis. Non, parce qu'on parle de musique moderne, parce que c'est certain, si on parle de Haydn ou de gens comme ça, c'est moins moderne, mais il utilisait beaucoup le basson, Haydn justement, il avait beaucoup de solos.
Oui, des solos, mais j'entends. Tout à coup, de sortir de sa zone de confort, pour reprendre les expressions de Patrice, à ce moment-là, on arrive ici avec, par exemple, le 4e et le 5e mouvement, où vraiment le basson se déchaîne, ça devient un instrument de folie, en fait.
Voilà. Effectivement, il est très exposé dans ces mouvements-là.
Et vous êtes 4.
Il y a un solo, à 4 bassons. 4 bassons. Et puis, ça fait certainement un effet qu'on n'avait jamais entendu avant, effectivement.
Et je sais pas, à chaque fois que je pense à la symphonie fantastique, je ne sais pas si vous serez d'accord, vous la connaissez Fabrice, oui, évidemment, bien sûr. C'est vraiment, je trouve, le portail, le portique qui amène l'ère moderne. Si on pense que la 9e de Beethoven, la 9e de Schubert, ce que pouvait faire Mendelssohn et tout, autour du 1828, 1830, 35, ça reste, si on veut, dans un moule classique, même si avec la 9e de Beethoven, bon, les chœurs, bien sûr, mais cette espèce de délire, cette utilisation d'un thème de Nuit des Fixes, par exemple, ça, c'est lui qui lance ça, qui va permettre à Liszt d'arriver à utiliser un thème à Wagner, etc., qui nous amène, et dans le délire, jusqu'à Mahler, et à l'ère moderne. Berlioz ouvre la porte avec cette sensibilité qui correspond. On écoute ça maintenant, ça pourrait être une musique de film. Ça, c'est exactement l'orchestration. Rien n'a changé presque en 200 ans. C'est quand même assez hallucinant.
Absolument. Il avait des idées vraiment révolutionnaires.
Vraiment, c'est un concert exceptionnel avec Alain Trudel à la barre et il y a l'ensemble Sextrum. Donc pour ce Garbage Concerto, venez voir ce qu'on peut faire avec le recyclage, avec tous les objets que vous placez dans une poubelle. Et puis il y a aussi cette fantastique symphonie, fantastique, qui traverse les âges comme un paquebot insubmersible. Alors donc le mercredi 26 septembre, 19h30, salle André-Mathieu à Laval, Alain Trudel et l'orchestre vous attendent.